Et toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Peser les esprits, ça semble difficile, compliqué. En fait, ça nous est impossible. Ça fait partie des nombreuses choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Dieu peut peser les esprits. Alors une autre traduction peut-être va nous aider à mieux comprendre ce proverbe 16, verset 2. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Voilà ce que c'est que peser les esprits. C'est apprécier les motivations. Alors nous on pense toujours qu'on a raison. On pense que tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais Dieu regarde dans nos cœurs. Et c'est lui qui apprécie nos motivations. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Et bien souvent, après coup, lorsque son esprit nous éclaire, nous réalisons, nous nous disons, « Ah, quand j'ai fait ça par rivalité, j'ai fait ça pour être vu, j'ai fait ça pour toutes sortes de raisons. » En nous, on pense que ce qu'on fait, c'est bien. Mais Dieu ne regarde pas avant tout à nos mains. Il regarde à nos cœurs. On peut faire avec nos mains quelque chose de superbe. Mais ce qui compte, ce sont les raisons pour lesquelles nous agissons. Nous ne sommes pas dans l'apparence, c'est la superficialité. Mais un chrétien dans la vie avec Dieu, c'est profond. Alléluia. Alors, on va voir quelques exemples. D'abord, des mauvais exemples, de mauvais états d'esprit. Et ensuite, de bons exemples de personnes qui avaient de bonnes dispositions. Le premier exemple que j'ai à vous proposer se trouve dans Luc, chapitre 15. Je vous invite avec moi dans ce texte, Luc, chapitre 15, verset 23. Luc 15, 23, c'est cette parabole du fils perdu, du fils prodigue que l'on connaît bien. Mais alors, peut-être avant de lire à partir de ce verset, c'est bien de venir à la raison pour laquelle le Seigneur a donné cette parabole. Hein. Verset 2 alors, du chapitre 15, il est dit, « Les pharisiens, les scribes murmuraient ». Vous savez, Moïse a été dans le désert avec le peuple qui murmurait, mais Jésus a été aussi en Israël à l'époque où les gens murmuraient quand ils prêchaient. Et ils murmuraient aussi en disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Et on oublie souvent que la parabole du fils prodigue et les autres paraboles de ce chapitre, elles sont au nombre de trois, ont été données pour parler à ces pharisiens qui murmuraient, qui n'étaient pas contents de la simplicité que Jésus pouvait avoir avec les pécheurs. Il allait vers eux. Alors, reprenons le fil de notre pensée au chapitre 15, verset 23. Il est dit, « Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu. » Et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, et j'aimerais vous parler de cet état d'esprit du fils aîné, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras. » parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit. On parle souvent du père qui sort à la rencontre du fils prodigue, mais le père aussi sort à la rencontre du fils aîné et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils, c'est plus son frère, c'est le fils de son père, est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Alléluia. Ça vous en disait long aux pharisiens. Jésus s'adressait aux pharisiens ici. Il dit, mais pourquoi vous murmurez? Mais pourquoi vous y mettez des difficultés? Soyons heureux ensemble de l'œuvre de salut. Alléluia. Ah, l'état d'esprit du fils aîné, il est dur. Il est dur. C'est bien de servir le Seigneur, d'être fidèle. Il travaillait fidèlement, mais dans quel état d'esprit? Pendant toutes ces années peut-être, où le fils prodigue a tout dilapidé. Ah lui, c'était le bon garçon de la famille. Mais c'était pourri au-dedans de lui, dans son cœur, dans son état d'esprit. Il travaillait, il obéissait, mais il n'était pas très heureux ce garçon. Pas très heureux. Il en est devenu dur, incapable de se réjouir du salut de son frère. Il est dur parce qu'il est méritant, il est frustré, alors il est triste. Vous savez, bien-aimés, soyons éloignés de cet état d'esprit du bon garçon, fils aîné, qui certes a des mains qui font d'excellents ouvrages, mais dont le cœur est plein de supériorité, de jugement, de critique. Dieu regarde au cœur. Amen. Et nous qui sommes fidèles peut-être depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, que sais-je, plus encore, nous n'avons aucun droit. Nous ne sommes supérieurs à personne. Et nous ne sommes pas malheureux d'avoir travaillé pour le Seigneur et d'avoir même souffert pour lui des épreuves. Parce que c'est avec bonheur que nous servons Dieu. Alléluia. Il y a un mauvais état d'esprit, c'est de se dire, moi je viens aux réunions, mais eux ils ne viennent pas aux réunions. On ne vient pas aux réunions en regardant ceux qui ne viennent pas quand même. On est heureux de venir à la maison de Dieu. Alléluia. Si l'on commence à se juger les uns les autres et dire, mais moi je suis consacré, et lui il n'est pas consacré. Faisons attention, vous savez, parce que ça peut arriver parmi nous, que des chrétiens sont chancelants, faiblards pendant de nombreuses années, puis tout d'un coup le Seigneur fait grâce. Il les visite. Alléluia. Et soudainement, le Seigneur les utilise, il prophétise, le pasteur les sollicite pour quelque service que ce soit. Et là, si vous avez cette mentalité du fils aîné, dans votre cœur, vous allez dire, ah, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est trop facile. Moi, pendant des années, j'ai soutenu l'Église, l'œuvre de Dieu. Et lui, il était léger, elle était légère. Mais que Dieu fasse son œuvre au milieu de nous et que nous puissions nous réjouir de ce que le Seigneur peut faire. Alléluia. L'état d'esprit du fils aîné. Alors, ça nous concerne, nous qui sommes fidèles. Eh bien, attention. Oui, tout est à nous. Nous vivons avec notre Père. Gloire à Dieu. Tout était à lui, hein, parce que, en fait, la moitié avait été donnée au fils qui a tout dilapidé. Donc, vraiment, le fils aîné avait propriété de tout. Et il vivait avec son père. Il avait tout, mais il vivait comme un mendiant. On a découvert, il y a quelques années, aux États-Unis, qu'un vagabond qui vivait dans des cartons avait, en fait, une fortune sur son compte, parce qu'à force d'avoir vendu des tas de cartons, il avait amassé une fortune en dollars sur son compte. Mais il vivait toujours dans un carton. Toujours comme un pauvre. Ça m'a parlé quand j'ai entendu ça, aux informations. Je me suis dit quand même, ça ressemble au fils aîné, ça. On a de quoi vraiment nous réjouir parce qu'on a beaucoup, mais on vit encore comme des pauvres parfois, vous ne trouvez pas? On vit encore comme un malheureux, alors que le Seigneur nous a comblés. Béni soit son nom. Je crois qu'il est important de ne pas être fidèle et triste, obéissant et frustré, mais heureux de servir le Seigneur. Alléluia. Et d'être en sa présence. Et que Dieu visite des âmes, que des âmes nouvelles viennent, que des frères, des sœurs soient réveillés, et que, c'est pas vrai ce que je vais vous dire, mais je vais parler d'une façon humaine, et qu'il nous dépasse, eh bien tant mieux, passez, alléluia. Que Dieu soit glorifié, même si on sait bien qu'il n'y a pas de course entre nous en réalité. Prenons un second état d'esprit, celui de Jonas. Alors, on va aller dans le prophète Jonas, chapitre 3, verset 10, et on lira tout le chapitre 4, il est assez court. Chapitre 3, verset 10. Jonas, chapitre 3, verset 10. Alors, dans la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, comme c'est la vérité, elle va aussi nous montrer la vérité de ce que sont les hommes. Il y a des livres qui sont enjoliveurs. Il y a des livres qui réécrivent l'histoire. Ils ne disent pas certaines choses. L'Écriture nous montre même parfois des hommes de Dieu dans une drôle de situation. Jonas, chapitre 3, verset 10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Moi, je me dis que si Dieu s'est changé d'avis, alors nous aussi, parfois, il faut qu'on change d'avis. Amen. Chapitre 4, verset 1er. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel. Ah, vous êtes curieux, des fois quand on prie, on est irrité en même temps, ben voilà. Et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis et en Espagne. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Hein, vous ne trouvez pas qu'on est comme lui parfois excessif ? L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter ? Ah, bonne question. Il répond pas. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y mit à l'ombre, jusqu'à ce qu'il voit ce qui arriverait dans la ville. On a comme l'impression qu'il espère même que, au final, ça se passe pas très bien pour eux quand même, quoi. Hein? Ils surveillent. Verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Vous savez, quand on est excessif quand on est démoralisé et on est excessif quand on est heureux. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui rongea le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit « La mort m'est préférable à la vie. » Deuxième fois. Dieu dit à Jonas, il y revient, la même question. « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin ?» Et cette fois-ci, Jonas ne reste pas silencieux. Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. » Amen. C'est une belle leçon. Amen. Vous ne trouvez pas que des fois, on est tout heureux de pas grand-chose. Et très malheureux aussi de pas grand-chose. Et que on a une tendance à fuir et à se réfugier dans des petites bricoles matérielles. Quand on n'est pas bien avec le Seigneur, on se console avec un petit achat. Et puis voilà, le Seigneur permet que 3 jours après, patatras, il y avait un vice, il y avait un défaut dans le colis. Et notre petit ricin, là, qui avait bien grandi, on était sous son nom, on était tout heureux, tout content, paf ! Ah, il faut le SAV, ah, puis j'ai acheté, oh, ça va être compliqué. Et on est de mauvaise humeur et on s'emporte. Il ne faut pas que les enfants soient dans les parages parce que sinon je les plains. Ah, on peut pointer du doigt Jonas, mais bon, lui ou nous, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous, Et tout cela commence pourquoi ? Parce que cet homme de Dieu, et je voudrais vous le dire, je ne décris pas les personnages de l'Ancien Testament, ce sont des hommes de Dieu. Jonas est un homme de Dieu. Jonas, d'ailleurs, Jésus reprendra la vie de Jonas comme étant le seul signe qu'il sera accordé. Jésus honore la mémoire de Jonas, et nous ferons de même. Parce que Jonas est le premier missionnaire, c'est le premier prophète qui a dû exercer un ministère en dehors de la terre d'Israël. C'est pas peu de choses. Enfin, un jour peut-être on fera l'étude du livre. Jonas est un homme de Dieu, mais à un moment donné, il n'a pas eu un bon état d'esprit. Il n'était pas bien disposé pour les Ninivites. Et on peut le comprendre. Parce que les Ninivites, c'était un peuple de sauvages, de brutes, des guerriers sanguinaires. Et ils savaient très bien que ces guerriers-là, un jour ou un autre, allaient ravager Israël. Ce n'est pas sans raison qu'il a ces combats. Mais malheureusement, au lieu de l'amour, au lieu de l'obéissance, il se braque. Il s'irrite. L'irritation siège dans le sein des insensés, dit la parole de Dieu. L'irritation. La mauvaise humeur. Mon frère, ma sœur, est-ce que ces derniers jours, ces dernières semaines, tu as tendance à ressembler à Jonas, lunatique, changeant, de mauvaise humeur régulièrement? Pour peu de choses, tu t'emportes, tu t'irrites, tu t'énerves. Pour peu de choses, tu te mets heureux. Mais en fait, en réalité, ça ne va pas. Parce que ça ne va pas dans ton cœur et dans ta vie. Comme Jonas, l'œuvre de Dieu peut nous déranger. Et ça nous fait drôle. Parce qu'on pense toujours que Dieu va faire les choses comme on pense. Mais quand Dieu choisit de faire autrement, on doit s'adapter à lui. Ce n'est pas à Dieu à nous obéir. Ce n'est pas à Dieu de faire comme on pense. Mais c'est à nous à accepter ce que Dieu décide et fait. Amen. Et Jonas n'était pas bien. C'est impressionnant comment Dieu sait s'y prendre avec nous. Il lui fait lever un ricin pour calmer son irritation. C'est impressionnant. Je pense que les sœurs sont au courant. Parfois, quand un mari est énervé, c'est pas le moment d'essayer de le raisonner. Parce que c'est encore pire. Vous avez vu, quand Dieu lui pose la question une deuxième fois, tu fais bien de te mettre en colère? Oui, je fais bien. Et même jusqu'à la mort. Impressionnant quand même. Ça nous arrive tous des fois quand on est énervé. Alors on fait comme Jonas, la première fois on sait se contrôler. On dit rien. Première fois il répond pas à Dieu. Il se contrôle. Et on a beau essayer de se contrôler, si dans le cœur ça va pas, si le cœur est mal disposé, le Seigneur permettra, il y reviendra une seconde fois. Et là, pof. Savez-vous que parfois on met du temps à changer d'état d'esprit parce qu'on se retient et on n'ose pas vraiment aller au fond des choses et dire à Dieu ce que l'on pense. Et si quelqu'un avait de mauvaises dispositions de cœur ce matin, je l'encourage à dire le fond de sa pensée au Seigneur. Nous sommes étonnés de la façon dont Jonas parle à Dieu, de la façon dont Job parle à Dieu, et d'autres prophètes, d'une façon générale, tous les prophètes ont été très francs, très vrais avec Dieu, sans pour autant l'offenser. Pour parfois s'en sortir, il faut enfin dire à Dieu la vérité de nos cœurs. Vous ne l'offenserez pas. Je pense quelque part que c'est même une marque de confiance que d'oser dire à Dieu ce qui est honteux dans nos vies, dans nos cœurs. Si on ose lui dire, c'est qu'on sait qu'il ne va pas nous détruire. Et que c'est le seul médecin qui peut vraiment changer la situation. Amen. Ah, je crois qu'on peut être un homme de Dieu comme Jonas quand dans le cœur ça commence à être mal disposé. Et si on ne le reconnaît pas, si le Seigneur ne nous renouvelle pas, c'est de pire en pire comme Jonas. Mais enfin, je voudrais quand même vous dire, ça j'ai mis du temps à y penser alors que c'est tout simple. Pendant longtemps, je me disais, bon, ben, le livre, il se finit comme ça. Dieu lui donne la leçon. Ouais, mais Jonas, est-ce qu'il a compris quelle est la suite? On veut toujours savoir plus alors qu'on a déjà beaucoup. Bon, ben, c'est comme ça. Mais en fait, qui a écrit le livre de Jonas? C'est Jonas. Ben, chapeau quand même. Vous auriez écrit un livre sur vous, en votre défaveur comme cela? Oui, écrire un livre sur nos exploits, ça on peut le faire. Mais écrire un livre dans lequel on ose dire à Dieu, « Oui, je fais bien de mourir jusqu'à la mort, je ne veux pas que les Ninivites y vivent. Je te désobéis, je vais jusqu'en Espagne. Quelle » Quelle leçon pour nous? Oui, c'est que j'en suis persuadé, Jonas a bien compris la leçon et a voulu, par son livre, montrer à tous les combats qu'il a pu avoir et la victoire de Dieu dans sa vie. Voyez, que Dieu ait sa victoire sur nos cœurs. Amen. Et vous savez, si Jonas, il ose dire, c'est vrai que dans une réunion, on va toujours sélectionner les bons témoignages, les témoignages positifs. Mais il y a bien des réactions et des témoignages négatifs que nous pourrions donner dans nos vies où nous avons mal réagi avec le Seigneur. Mais au final, le Seigneur a eu raison de nous. À Dieu soit la gloire. Un dernier mauvais état d'esprit, Genèse 37, verset 4. Genèse 37, verset 4, plus connu. Enfin, Jonas était bien connu aussi, mais... Genèse 37, verset 4. Genèse 37, verset 4. Ses frères, les frères de Joseph, virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Alors à partir de là, c'est devenu compliqué. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Amen. Ça fait réfléchir aussi. Alors je voudrais vous poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec lequel ou laquelle vous ne savez pas parler et vous allez éviter? Au travail, dans la famille? Peu importe où. Eh bien, si vous ne savez pas parler avec quelqu'un parce que vous l'évitez, faites attention que ce ne soit pas parce qu'il y a d'abord de la haine dans votre cœur. L'Écriture dit qu'ils ont eu de la haine et après, ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Eh oui. Veille, le Seigneur Jésus a dit, veille sur ton cœur plus que sur tout autre chose. Amen. Il ne pouvait plus lui parler aimablement. Mais c'est terrible quand on en est là. C'est qu'on est vaincu par le mal. Vaincu par la haine. Parce que le cœur est entaché d'un peu de cette lèpre. La haine des frères. Alors quelqu'un me dirait, oui mais attendez, c'était le préféré, il y a des raisons, etc. On aura toujours de bonnes raisons pour haïr, mais pas en Jésus-Christ. Parce que lui, injurié, il ne formulait pas de menaces. Il a donné sa vie à la croix. S'il en avait un qui avait toutes les raisons pour réagir, pour se défendre et pour haïr, c'était bien notre maître. Mais il a vaincu le mal par le bien. Alléluia. Non. Et même Judas, il le laisse l'embrasser. Et il l'aime. Il aime le traître. C'est le Seigneur, mais c'est notre Seigneur. Alléluia. Là aussi, comme Jonas, vous pourriez dire, non, ça non. Ça non. La croix pour moi, oui, mais... qu'à la croix, je doive aimer celui pour lequel j'aurais toutes les raisons d'avoir de la haine. Là, c'est plus difficile. Oui. Alors, voilà. Bien aimé, il faut faire très attention à cela parce que ça sera ma conclusion sur ce point-là. Qui est le plus mal animé? C'est le diable. Le diable est animé d'une grande colère. C'est écrit. Il est écrit aussi qu'il est meurtrier dès le commencement. Alors, attention à ces mauvaises dispositions. Hébreux chapitre 12, verset 15, nous met en garde sur cela. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Vous savez, quand on est mal disposé, tout devient compliqué. Pour se parler, pour échanger, pour travailler ensemble, pour... Quand on est mal disposé, tout devient compliqué. Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Paul écrit ça à des chrétiens, ça semble peut-être plus étonnant, mais en réalité, avec le temps, on se rend bien compte que nous sommes de la même patte que tout le monde, au fond. D'abord, il dit, dans l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit d'abord, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et après, il parle d'amertume. C'est intéressant. Je crois que quand dans la vie chrétienne, on n'est plus dans la grâce de Dieu, alors il y a une possibilité pour l'amertume. Il faut vivre dans la grâce de Dieu. Elle est douce, la grâce de Dieu. Elle n'est pas amère. Quand on vit vraiment dans le renouvellement du Saint-Esprit, dans la reconnaissance envers Jésus-Christ, quand on vit dans l'amour de la parole de Dieu et de la nouvelle alliance, on vit dans la grâce, alors on a des sentiments différents. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu, parce qu'après, peut-être que cette personne... Ça commence par se priver de la grâce de Dieu, devenir amer et après devenir même contagieux. Puisqu'il y a des rejetons qui poussent de la racine et ça peut infecter les autres. Vous avez vu le crescendo ? D'abord on se prive de la grâce de Dieu. D'abord on n'est pas bien disposé envers la grâce du Seigneur. Et puis on continue, on devient amer. Puis après quand on est amer, qu'on est mal disposé, on devient contagieux. Parce que la Bible dit que c'est quand même de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va dire ce qu'on veut, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si dans le cœur c'est mauvais, dans la bouche ce sera mauvais. Et là le problème c'est qu'on peut devenir contagieux. Et l'Écriture il dit attention, attention, que personne, qu'aucune racine d'amertume continue de pousser, mais et ne produise du trouble, poussant des rejetons et que quelques-uns en soient infectés. Gardons nos cœurs bien disposés. Amen. Et si il y a du poison autour de nous, au travail ou ailleurs, n'écoutons pas. Restons dans les bonnes dispositions de cœur. Ne nous laissons pas influencer en mal. Ne soyons pas contaminés. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui dit plusieurs fois en répétant cette parole, « Aujourd'hui, si quelqu'un entend sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Un cœur mal disposé peut s'endurcir. Et là, ça devient même dangereux. Et il nous faut veiller à cela. Voyons maintenant quelques bons exemples. On va aller dans 2 Samuel, chapitre 1, verset 6. Évidemment, dans ce domaine-là, franchement, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est vraiment un exemple de grande qualité. 2 Samuel, chapitre 1, verset 6. Alors, 2 Samuel, chapitre 1, verset 6. Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyer sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela, et je dis, « Me voici !» Et il me dit, « Qui es-tu ? » Je lui répondis, « Je suis un Amalécite. » 2 Samuel 1, verset 9. Et il dit, « Approche donc et donne-moi la mort, car je suis un pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. » C'est la mort de Saül, en fait, qui est décrit ici. David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel, de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. Amen. Si David a eu un ennemi, ce fut bien Saül. Plusieurs fois, il a failli le tuer. Il lui a rendu la vie très difficile. Il a dû tout faire pour s'enfuir comme il pouvait. Et le jour de sa mort, il déchire ses vêtements. Il jeûne, il fait le deuil et il écrit un magnifique cantique funèbre en son honneur. Et il ordonne même au ministre de l'Éducation nationale d'Israël de l'époque de l'enseigner aux enfants pour que la mémoire subsiste de cela. Bon, quand même, vouloir un cantique en l'honneur de Saül de génération en génération, c'est fort. David plaisait à Dieu à cause de ça. David plaisait à Dieu parce que c'était un homme selon son cœur. Jamais il n'a été ni agressif, ni insultant contre Saül. Jamais. Et là, la fin du passage, même, il va mettre à mort cet Amalécite. Et il dira, t'as osé porter la main sur Saül. Et en plus, il semblerait plutôt qu'il avait menti, mais enfin, il est mort pour rien, oui et non. Enfin, voilà. Mais pour David, t'as osé faire ça à Saül. Ça, il ne peut pas l'accepter. Vous vous rappelez à un moment donné, quand, avec son acolyte, ils avaient réussi à aller jusqu'au milieu du camp, prendre sa lance, etc. Et à d'autres reprises, David dira, je ne porterai jamais la main sur toi. Je ne porterai jamais la main sur toi. Si Dieu le veut, c'est Dieu qui portera la main sur toi. Mais moi, je ne porterai jamais la main sur toi. C'est magnifique. Vous ne trouvez pas ? C'est à Dieu la vengeance et la rétribution. Ce n'est pas à nous. Parce que nous, on n'est pas capable de se venger en ayant un bon cœur. Dieu seul, qui est amour, peut être vraiment juste. Amen. Ah ça, alors, et pas seulement, on n'a pas le temps, mais on va au chapitre 9, verset 1er de ce même chapitre, il y a Mephibosheth. Mephibosheth, c'est un descendant de Saül par Jonathan. Il va l'inviter à sa table royalement. Et si on va même au chapitre 21, versets 12 à 14, il y a un honneur post-mortem. Dans ce chapitre 21, David réunit les ossements de Saül, de Jonathan, des certains descendants qui avaient été ici maudits dans l'affaire des Gabaonites. C'est un honneur post-mortem. C'est-à-dire que David a gardé cela pour Saül, même de longues années après que ce soit terminé. Vous savez, nous, des fois, quand les choses sont terminées, on peut se dire, oh, bah, de toute façon, c'est terminé, maintenant, voilà, on peut. Mais non, lui, il est resté dans cet état d'esprit toute sa vie de roi. Moi, je crois que Dieu a protégé David parce que David a, entre autres, respecté et protégé quelque part, quand il pouvait le mettre à mort, il l'a refusé, Saül. Dieu fait avec nous ce que nous faisons avec les autres. Parce que Dieu est juste. Si nous sommes bons avec les autres, il sera bon avec nous. Mais Jésus nous a avertis qu'il utilisera la mesure que nous utilisons nous-mêmes. Amen. Et j'ai prêché sur la crainte de Dieu la semaine dernière. Quelque part, ça se rejoint. Si on craint Dieu, on va avoir peur qu'il nous fasse ce que l'on fait aux autres. Amen. Alors, il vaut mieux faire attention. Non, on se souvient aussi, alors, un autre bon exemple, le temps passe, Jérémie, quand je y repassais sur son cœur l'absinthe, le poison, ça n'allait pas. Alors il se ressaisit, voici ce que je dirais, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. À un moment donné, Jérémie, il sentait bien que son cœur était infecté. Et il nourrissait cette infection, mais ça allait de pire en pire. Alors il s'est dit, mais non, voilà ce que je veux dire. La grâce de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas éteintes. Alléluia. Un dernier bon exemple, Actes chapitre 10, versets 30 à 32. Actes 10, 30 à 32. Vous voulez bien ? Actes 10, 30 à 32. Actes 10, verset 30. Voilà ce qui est dit. Actes 10, 30. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Amen. Ben ça, c'est un bel exemple de bonne disposition. Vous avez lu avec moi. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Vous savez, si on est bien disposé dans l'Église, dans les réunions, Dieu nous parlera. Mais si nous sommes mal disposés, nous repartirons comme nous sommes venus au mieux. On peut même repartir pire. C'est pour ça qu'il est écrit que nous ne nous assemblons pas pour devenir pire. Parce que c'est une possibilité. Nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné. Je crois qu'il faut quand même rester dans la foi. Quand la parole est annoncée, quel que soit le messager, nous voulons honorer la parole de Dieu. Et avoir des bonnes dispositions de cœur pour recevoir. Amen. Voilà encore un exemple. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le Saint-Esprit est descendu. Tout le monde a été visité par le Seigneur. Alléluia. Et franchement, quand on vient aux réunions bien disposées, ça favorise l'onction. Honnêtement, qu'est-ce qui va favoriser l'onction ? Les frères qu'il faut chanter, c'est « Ils nous rendent service » et « Merci Seigneur », mais ils ne font pas tout. Les musiciens, ils ne vont pas tout faire. Non, cessons nos cœurs. Dieu n'écoute pas les musiciens. Enfin, il les écoute aussi, mais je veux dire, Dieu n'écoute pas les musiciens, il ne regarde pas le frère qui fait chanter, alors c'est bien, c'est pas bien. Le prédicateur non plus, est-ce que la virgule était au bon endroit ? Mais il regarde nos cœurs. Amen. Et c'est ça qui amène l'onction ou pas. Parce que l'Église, c'est nous tous. Amen. Et nous avons besoin d'être bien disposés. Parce que je crois que celui qui est mal disposé, c'est lui la première victime quelque part. C'est elle la première malheureuse. Et ce message est donné. Moi, je crois vraiment que le Seigneur m'a donné ce message, vous m'excuserez. Et je pense que c'est avant tout pour délivrer, pour nous secourir de notre mauvais cœur. Alléluia. Bon, c'est vrai, c'est difficile parfois de reconnaître nos mauvaises dispositions, mais on a tout à gagner à confesser nos péchés. Dieu peut agir sur notre cœur, parce que comme tout à l'heure, dans les mauvais exemples, le pire de tout, ben, c'est le diable. Le meilleur des exemples, c'est Dieu, qui est bon. Pour les méchants, elle est bonne. Alléluia. Et la Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est quoi cette perfection du Père Céleste ? C'est justement cette bonté de Dieu. C'est quoi la bonté de Dieu ? C'est la bonne disposition de Dieu. On l'a lu par exemple avec Jonas. Même quand Dieu est en colère, il reste bien disposé. Difficile à comprendre cela. Nous, quand on est en colère, des fois, on est tellement mal disposé que même si la personne dit « Ah, je te demande pardon », c'est trop facile. Et on continue d'être énervé. Mais Dieu est tellement bien bon, de bonne qualité intérieure. Dieu est tellement bon que même quand il est en colère, si quelqu'un se repent tout de suite, avec facilité, Dieu se repent du mal, il change d'avis. Alléluia. Dieu est toujours bien disposé, même quand il doit juger et condamner. Amen. Quel bel exemple que notre Père. Et nous, des fois aussi dans la vie, parfois il faut être parfois ferme, il faut parfois résister, il faut parfois dire non, c'est certain. Mais Dieu regarde à nos cœurs. Quelqu'un peut, pour le nom du Seigneur, pour l'Église, prendre une position de fidélité. Mais si dans son cœur, il n'y a pas de bonne disposition, il n'est pas approuvé par le Seigneur. Alors, un dernier bon exemple, peut-être, Colossiens chapitre 3, verset 23. Colossiens 3, 23. Colossiens 3, 23. Voilà ce qui est dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Pourquoi ? Parce que notre salaire, c'est pas ça. Sachant que vous recevrez du Seigneur le plus beau des salaires, l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Alors, j'ai parlé dans tous les sens ce matin, dans toutes les directions, au travail, dans la famille, dans l'église, dans toutes les directions, parce qu'effectivement, ce qui compte, c'est de faire les choses de bon cœur. Amen. Des fois, on n'a pas envie d'aller au travail, je le sais bien. Parfois, il y a des périodes où... Alors, il faut être renouvelé par le Seigneur. Et le lendemain... Vos collègues, ils ne vont plus rien comprendre. Ils disent, ben, qu'est-ce qui se passe ? Ben, tu chantes ? Ça fait longtemps qu'on ne t'entendait plus chanter. Des fois, les incroyants, ils nous disent des choses qui sont intéressantes à entendre. Eh bien oui, parce que moi, je viens de bon cœur au travail. Tu viens de bon cœur au travail ? Tu n'as pas le même patron que moi ? Etc., etc. Il y a beaucoup de raisons d'être mal disposé. Nous sommes dans un monde difficile, exigeant, un monde qui est dur, parce que son maître est dur. Mais nous, notre Père est bon. Notre maître est plein de grâce. Et nous voulons vivre plutôt de son côté à lui. Alléluia. Et servir l'Éternel avec joie. Alléluia. Allez, dernier passage, 1 Pierre 3, 9, et puis après Frédéric pourra nous conduire dans un chant. 1 Pierre 3, 9. 1 Pierre 3, 9. Ou 2, ou voilà. 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Amen. Voilà, il faut bénir. Il faut bénir. Même ceux qui ne disent pas de bien de nous, même ceux que nous n'apprécions pas, que nous n'aimerions pas, ben que le Seigneur change nos cœurs. Alléluia. Et que nous puissions bénir et jamais maudire. Amen. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur.